Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée par Margot Léridon, Nicolas Sendé et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu, et à la technique ce matin, Baptiste Lénard. Dernier temps de notre semaine consacrée au poids de l'héritage des héros nationaux dans la vie politique contemporaine. Florian Delorme évoquait lundi l'attachement farouche des Britanniques à leur indépendance, de Churchill à Johnson, les rêves de grandeur du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et de son modèle Gamal Abdel Nasser. Hier, nous discutions des vestiges de la révolution socialiste à Cuba, de Fidel à Raúl Castro. Et ce matin, direction l'Afrique du Sud et la mémoire de Nelson Mandela.
Je me tiens devant vous, non pas en tant que prophète, mais en tant qu'humble serviteur de vous, le peuple. Vos sacrifices infatigables et héroïques m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Il y a 30 ans, nous nous tenions ici, avec cet homme dont la statue se tient à côté de moi. Il s'est tenu là pour parler et je lui tenais un micro alors qu'il parlait pour la toute première fois. C'est ici que nous avons reçu Nelson Mandela et célébré sa libération de prison. Le 11 février restera pour toujours dans les mémoires comme l'un des jours les plus importants de l'histoire du monde, et pas seulement de l'histoire de l'Afrique du Sud.
Cyril Ramaphosa était âgé de 37 ans ce 11 février 1990. C'est lui qui tenait le micro de Nelson Mandela au balcon de l'hôtel de ville du Cap pour sa première allocution publique depuis sa libération après 27 années d'emprisonnement. 30 ans plus tard, celui qui fut un temps le dauphin du grand homme est revenu marcher dans les pas de son illustre prédécesseur, devenant à son tour président de la nation arc-en-ciel. Mais c'est un pays abîmé par des années de corruption, l'aggravation des inégalités et la persistance de profondes divisions dont il a pris les rênes en 2018. Près de trois décennies après la fin de l'apartheid, les discriminations n'ont pas disparu. La xénophobie à l'égard des travailleurs immigrés venant s'ajouter aux anciennes plaies du racisme. Tandis que les derniers compagnons de Mandela s'éteignent les uns après les autres, la mémoire de leur lutte devient moins évidente à transmettre. Elle reste pourtant précieuse, non seulement pour le pays, mais pour le monde entier, Mandela étant probablement, de toutes les figures que nous avons étudiées cette semaine, celle dont l'héritage est le plus universel. Alors la proximité que Cyril Ramaphosa avait dans sa jeunesse avec Nelson Mandela lui permet permettra-t-elle de renouer avec les valeurs qui étaient au cœur des combats de son mentor? Tandis que le parti historique de l'ANC est empêtré depuis des années dans des scandales de corruption, est-ce encore l'aura de Mandela qui explique la pérennité de cette formation politique régulièrement décriée en place publique mais jamais détrônée dans les urnes? Enfin, s'il demeure un modèle pour les dirigeants actuels, la figure de Mandela n'est-elle pas aussi un poids pour ses successeurs condamnés à être jugés à l'aune de ce mythe indépassable? Voilà les questions que nous allons discuter ce matin avec nos deux invités que j'accueille. Ils sont à distance, comme tous nos invités en ce moment. Marianne Séverin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au laboratoire Les Afriques dans le monde, le LAM de Sciences Po Bordeaux. Vous êtes l'auteur de Afrique du Sud, 20 ans de démocratie contrastée avec Pierre-Paul Dicard, Raphaël Portella et Judith Ayem. C'était paru aux éditions de l'Armatan en 2016. Et puis à vos côtés entre guillemets, Achille Membe, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous également ce matin. Vous êtes philosophe, politologue et historien, professeur à l'université du Witwatersrand de Johannesburg en Afrique du Sud. Vous êtes l'auteur de nombreux essais, je vais citer les trois derniers. Brutalisme, paru aux éditions La Découverte cette année. Politique de l'inimitié, toujours à La Découverte en 2018. Et puis Critique de la raison nègre, toujours chez la même maison d'édition, en 2015. Je vous propose qu'on propose qu'on commence cette émission en essayant de s'attarder sur la figure du président actuel, Cyril Ramaphosa. Il était le successeur désigné par Mandela à la tête de l'ANC, mais les choses se sont passées autrement. Est-ce que son arrivée finalement au pouvoir en 2018 était d'une certaine manière une revanche pour celui voilà, qui avait été désigné comme dauphin, mais qui avait finalement été écarté, Marianne Sèvrin?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'une des raisons pour laquelle le président Cyril Ramaphosa avait été écarté, c'est qu'une décision avait été prise au début des années 60, au moment où les acteurs de la lutte anti-apartheid de la génération de Nelson Mandela savaient très bien qu'ils allaient se retrouver en prison. Donc, ils ont plutôt essayé de préserver la jeune génération, donc la génération de l'ex-président Thabo Mbeki, en décidant que cette génération allait être formée en exil pour se préparer à la nouvelle, à la future Afrique du Sud post-apartheid. Donc, lorsque la ANC a été légalisée, il fallait, faire perdurer cette tradition historique. Celui qui avait été désigné, c'était Thabo Mbeki. Alors, je considère que Thabo Mbeki est un vrai ANC, puisqu'il est membre de l'ANC depuis l'âge de 14 ans, alors que Cyril Ramaphosa est devenu membre de l'ANC qu'à partir des années 90, et il appartient plutôt à la génération de ce que j'appelle la génération du mouvement de la conscience noire de Steve Biko des années 70, avant d'être le syndicaliste qu'on a su. Donc, c'était pas normal, en fait, que quelqu'un de l'extérieur puisse devenir le président de l'ANC et le président de l'Afrique du Sud par la suite.
Vous dites, Marianne Sèvrin, qu'il incarnait une nouvelle génération au sein de l'ANC, et pourtant il était particulièrement proche de Mandela. Et puis il y a ce moment historique où effectivement c'est lui qui tenait le micro de Nelson Mandela au moment de son premier discours à sa libération. Achille Mbembe, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un petit peu mieux qui est Cyril Ramaphosa et d'où il tire sa légitimité politique et historique?
Mais comme le disait Marianne, la légitimité au sein de l'ANC pendant les années de la lutte de libération, elle dérive de l'ANC en exil. C'est quand même Oliver Tambo qui tient ce mouvement, arrive à le faire vivre au milieu d'énormes difficultés pendant toutes ces années-là. Et Thabo Mbeki était le fils spirituel d'Oliver Tambo. Et lorsque l'ANC est légalisée au début des années 90, évidemment, cette légitimité au sein du parti, au sein du mouvement de libération, elle est énorme. Et donc, Cyril Ramaphosa perd, les élections pour la succession de Mandela, dans la mesure où la branche jeune de l'ANC, qui à l'époque exerce énormément d'influence au sein du mouvement, opte plutôt pour Mbeki. Mais Ramaphosa reviendra beaucoup plus tard, après être passé par les milieux d'affaires, après avoir été adoubé par les milieux d'affaires sud-africains. Il revient à un moment où la légitimité de l'ANC est mise à mal, suite à l'épisode Zuma, caractérisé par une énorme corruption et une perte, disons, d'aura de ce vieux mouvement au sein de la population sud-africaine. Ramaphosa, on le repêche dans l'espoir de redonner, disons, du souffle au régime Zuma.
Et si on vient le repêcher, comme vous dites, Achille Mbembe, est-ce que ça n'est pas parce que, justement, Cyril Ramaphosa incarnerait davantage la figure de l'héritier de Nelson Mandela que ses deux prédécesseurs, Thabo Mbeki, dont vous avez parlé, et ensuite Jacob Zuma, dont la présidence a effectivement été marquée par de nombreux scandales de corruption? Est-ce que c'est le fils prodigue, d'une certaine manière, que le parti est allé chercher pour tenter de relever la barre et de relever tous les défis qui s'offre là en ce moment à l'Afrique du Sud?
Mais vous savez, c'est en politique, en Afrique du Sud comme ailleurs, il y a les idéaux, mais il y a aussi, une bonne dose de réalisme, ou si vous voulez, de pragmatisme. Lorsque Zuma va chercher Ramaphosa de là où il est, je ne pense pas qu'il a Mandela en tête. Il a en tête de sauver son régime. Et Ramaphosa présente l'avantage de ne pas du tout être mêlé à toutes ces histoires de corruption auxquelles vous avez fait allusion. Et d'ailleurs, les premiers soutiens de Zuma, qui sont les premiers ministres des États tels que, des provinces telles que le Limpopo, l'État libre, le vieil État libre d'Orange, ainsi de suite, ses premiers soutiens ne pensent pas à Ramaphosa comme le successeur potentiel de Zuma.
Marianne Séverin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que son arrivée à Ramaphosa, à la tête de l'ANC, puis de la présidence de l'Afrique du Sud, tient plus à un contexte et à une stratégie pragmatique qu'à une aura symbolique et une évocation du passé?
Alors, je pense que c'est les deux, en fait, le contexte. Alors, il faut savoir que l'ex-président Thabo Mbeki, lui, ne s'est pas vraiment revendiqué de l'héritage de Nelson Mandela. D'ailleurs, il avait bien expliqué qu'il ne voulait pas se retrouver dans les vieilles chaussures de Madiba, mais j'ai bien l'impression que finalement, le fait d'avoir été écarté du pouvoir, ça a été bénéfique pour Cyril Ramaphosa. Et il faut savoir que celui qui l'a écarté, c'est quand même l'ex-président Thabo Mbeki. Donc patiemment, Cyril Ramaphosa, en tant que stratège aussi, parce que on parle de repêchage de Ramaphosa par l'ANC, mais il faut comprendre aussi la psychologie du personnage. Et celui-ci, en stratège, a pu observer ce qui se passait au sein de l'ANC, a pu s'adapter à la politique interne de l'ANC pour pouvoir frayer son chemin. Et l'une des raisons pour laquelle il est devenu président de l'ANC en 2017, c'est qu'il ne s'est, entre guillemets, jamais vraiment opposé à Jacob Zuma. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche, puisque lorsqu'on parle du grand système de corruption mis en place par l'ex-président Jacob Zuma, souvent on explique que Cyril Ramaphosa a été passif, mais il était assez difficile pour lui de se confronter à Jacob Zuma, puisque s'il l'avait fait, il aurait été renvoyé et aujourd'hui, il ne serait peut-être pas président. Donc, c'est à la fois le contexte, une stratégie politique de sa part et également une stratégie politique de la part de la direction de l'ANC. Et peut-être que Jacob Zuma aurait sous-estimé Cyril Ramaphosa en pensant qu'il était un peu passif.
Marianne Séverin, est-ce que la figure de Mandela, ses valeurs, ses combats, sa manière de concevoir la gouvernance, la politique, est-ce que tout cela constitue aujourd'hui une source d'inspiration pour le président actuel, Cyril Ramaphosa? Est-ce qu'il tente de se mettre dans les pas, dans les traces de son prédécesseur, comme ne l'avait pas fait, vous venez de nous l'expliquer, le premier successeur de Mandela. Mais est-ce que lui s'est rapproché davantage de l'héritage de Mandela? Est-ce qu'il le revendique?
Alors, peut-être qu'il ne le revendique pas comme l'aurait fait, alors ce qui est assez paradoxal, Jacob Zuma, mais dans ses actes, il essaye finalement de suivre les pas de Madiba en parlant de finalement d'union au sein de la population sud-africaine qui est assez divisée, en essayant d'apaiser les tensions. Alors, apaiser les tensions au sein de l'ANC, je ne sais pas comment il va faire, c'est assez difficile puisque vous avez encore des confrontations au sein même du parti, et en même temps il a un grand chantier, le plus gros chantier c'est la lutte contre la corruption, et la corruption a fait énormément de dégâts en Afrique du Sud, et notamment sur principalement les personnes vulnérables, puisque qui dit corruption dit violation systématique des droits les plus élémentaires de la majorité de la population sud-africaine qui est toujours dans un contexte économique et social très difficile.
Alors on va parler justement de ce problème endémique de la corruption dans l'ANC. Comment est-ce qu'on explique que ce parti de la libération, ce parti de l'icône Mandela est sombré à ce point dans les affaires? Est-ce que quelque chose quelque part a failli dans la transmission des valeurs, des principes qui étaient celles de vrai pour le collectif avant tout et non pas pour les intérêts personnels, Achille Mbembe?
Avant de répondre à l'autre question, j'aimerais quand même préciser une ou deux choses.
Un, je vous en prie.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mbeki, c'est le fils spirituel d'Oliver Tambo. Oliver Tambo, c'est le personnage central qui assure la survie de l'ANC au moment où, de l'intérieur, les choses sont tout à fait bloquées et le leadership historique est en prison. Mbeki, c'est aussi celui qui, au fond, met en place le dispositif politique sous l'ère Mandela. C'est en fait beaucoup plus que le premier ministre de Mandela. C'est le concepteur de sa politique économique, c'est l'architecte de l'Afrique du Sud, des institutions sud-africaines démocratiques au lendemain de l'apartheid. Donc, quelque part, il n'a pas besoin de se revendiquer de Mandela. Il a appliqué du Mandela à l'époque de Mandela lui-même. Ramaphosa, à l'époque, s'est très largement éloigné de la politique interne de l'ANC. Il a profité de ces années pour se faire de l'argent. Et lorsque Zuma va le chercher, pour qu'il l'accompagne à la présidence de la République, il apparaît comme quelqu'un qui est propre, qui n'est pas mêlé, aux scandales qui auront marqué surtout l'ère Zuma. Alors, est-ce qu'il essaye d'imiter Mandela ou de se mettre sur ses pas? Évidemment, il s'en inspire. Il s'en inspire, mais à une époque, celle d'aujourd'hui, au cours de laquelle l'image de Mandela n'est pas aussi limpide qu'on le pense. C'est une image qui est très contestée. Elle est contestée en partie par les nouvelles générations qui estiment, à tort à mon avis, que Mandela a trahi, le projet de transformation radicale de l'Afrique du Sud et qu'il en a trop donné aux minorités blanches.
Ces voix critiques, Achille Mbembe, excusez-moi, pardon de vous couper, ces voix critiques, Achille Mbembe, elles représentent qui? Elles représentent quoi aujourd'hui en Afrique du Sud? Ce sont des voix nouvelles, ce sont des voix minoritaires, c'est un discours qui monte, qui est de plus en plus partagé pour qu'on essaye de comprendre, puisque vu de l'extérieur, Mandela est encore cette icône complètement intouchable. Et vous nous dites, non, il y a aussi des voix critiques qui commencent à émerger.
Mais bien entendu. Non, mais c'est une voix, c'est-à-dire c'est une icône contestée. Elle est contestée notamment parmi les nouvelles générations, les générations qui en appellent à ce qu'elles appellent la décolonisation. Et en fait, au cours des 4-5 dernières années, on n'en a eu que pour ça. La décolonisation, c'est-à-dire le parachèvement d'une trajectoire de libération qui s'est soldée par la persistance des inégalités économiques et raciales et par le fait que beaucoup trop de Noirs n'ont toujours pas leur part, disons, de la richesse nationale, leur part de dignité, leur part d'estime, et ainsi de suite. Et donc, on perd de vue les significations par ailleurs positives de Mandela en Afrique du Sud si on ne tient pas compte du fait que c'est une figure contestée et contestée profondément.
Marianne Séverin, vous partagez ce constat d'une voix contestataire et d'un héritage qui est relu à l'aune d'une vision plus critique de Mandela aujourd'hui, surtout chez les jeunes générations en Afrique du Sud.
Je suis tout à fait d'accord et je rajouterais que cette contestation, parfois je l'associerais à du populisme puisque... je pense notamment à au deuxième parti d'opposition en Afrique du Sud de Julius Malema, un ancien de l'ANC et soutien de Jacob Zuma, qui justement a tendance à jouer sur la frustration des plus vulnérables, de ces jeunes qui ont envie de changement sur le terrain, qui ne voient pas de perspective d'avenir, qui n'entendent parler que de corruption et qui malheureusement auraient tendance à vouloir à ce que les Blancs partent d'Afrique du Sud en pleine réforme agraire, puisque justement la terre est le problème en Afrique du Sud. Donc on a bien... Cette partie de jeunes qui finalement aimeraient bien trouver sa place et qui parfois je me demande si ces jeunes connaissent bien l'histoire de leur pays et bien l'histoire de l'ANC pour comprendre ce qu'était Nelson Mandela et la symbolique qu'il représentait ainsi que ses compagnons, et de ne pas considérer que les négociations ça a été finalement la vente ou l'abandon de l'Afrique du Sud à la minorité blanche. S'il y a eu une négociation, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Sinon, finalement, on aurait peut-être assisté à une guerre civile. Mais on est sur un terrain socio-économie assez explosif. Donc, le défi pour Cyril Ramaphosa, c'est d'essayer de changer les choses. Mais alors, changer les choses après quasiment 10 ans de mandature de Jacob Zuma, et puis là, on est en pleine pandémie, pose de nombreux défis. Donc, j'ai vraiment l'impression que même s'il a envie de suivre les traces de Nelson Mandela, ça va pas être facile. Parce que finalement, l'ANC, au bout de 26 ans au pouvoir, quasiment, n'a pas respecté le sens même de la lutte anti-apartheid de l'ANC, n'a pas honoré les vétérans de la lutte anti-apartheid. En gros, l'ANC a trahi tous les idéaux de Nelson Mandela et de ses compagnons.
Alors, comment est-ce qu'on l'explique, cet état de de fait. Je reviens à la question que je vous posais à l'un et à l'autre tout à l'heure. Comment on explique que ce parti, ce parti de la libération et qui bénéficie encore de l'aura historique de Mandela, est complètement failli à la fois dans les idéaux, mais aussi dans la pratique, et donc avec ces affaires de corruption qui s'accumulent. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre les raisons et en même temps aussi du paradoxe, c'est-à-dire que l'ANC continue d'emporter les suffrages et de diriger le pays, Achille Mbembe.
Mais d'abord, il n'y a pas un seul Mandela. Il n'y en a jamais eu qu'un seul. Il y a eu plusieurs Mandela. Il y a eu le Mandela jeune qui adhérait, au type de discours que Marianne semble reprocher aux jeunes générations. Il y a eu le Mandela radical, le Mandela qui, à un moment donné, constate que la seule voie pour parvenir à la libération, c'est celle de la lutte armée, et qui est condamné précisément pour cette cause. Pourquoi est-ce que Mandela passe autant d'années en prison? C'est parce qu'il a pris des armes contre le régime raciste et minoritaire. On ne peut pas oublier cette dimension. Ensuite, il y a le Mandela des années de prison qui passe par ce que j'appellerais une transfiguration politique teintée de réalisme, comme le soulignait Marianne, et qui comprend qu'au fond, dans l'esprit même de la Charte de la Liberté, l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui vivent dans ce pays et qui entreprend donc des négociations qui aboutissent à cette espèce de dispensation que l'on est obligé de gérer aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez dire,
Achille, pour terminer, qu'à côté de Mandela, de Nelson, il y a évidemment Winnie Mandela, et que la mémoire de Nelson en Afrique du Sud aujourd'hui ne se comprend que, disons, en contre-reflet de celle de son ex-épouse, qui, elle, représente un imaginaire politique tout à fait différent. Et donc,
c'est-à-dire, important, c'est-à-dire
beaucoup plus décisive, beaucoup plus radical, beaucoup plus agressif, et ainsi de suite, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus prêt à aller jusqu'au bout, et que cela fait partie, en fait, de la culture politique historique sud-africaine.
Et donc il y aurait, d'une certaine manière, si je vous comprends bien, une nostalgie d'une partie de la population, en particulier de la jeunesse, pour le Mandela, le premier Mandela que vous décrivez, celui, le Mandela jeune, le Mandela radical, révolutionnaire. C'est
oui.
Ça qui est en train de se jouer en ce moment.
Mais tout à fait. C'est ce qui est en train de se jouer parce que la demande de changement, elle n'a pas disparu. Elle est là, la demande d'un changement qui aille au-delà, disons, d'une espèce de compromis postcolonial dans lequel l'ANC semble se satisfaire, et de cette espèce de discours lénifiant, complaisant, au sujet de la réconciliation, mais sans la justice.
Alors, je vous propose qu'on écoute à nouveau la voix de Mandela, un extrait de son discours d'investiture à la présidence en 1994.
We, the people of South Africa, feel fulfilled.
Nous, peuple d'Afrique du Sud, nous nous sentons comblés car l'humanité nous a réintégrés en son sein. Et car nous, qui étions considérés comme des criminels il y a encore peu, avons aujourd'hui le privilège de recevoir les nations du monde sur notre propre territoire. Nous devons donc agir ensemble, en peuple uni, pour la réconciliation nationale, la construction de notre nation, la naissance d'un nouveau monde. Qu'il y ait de la justice pour tous, qu'il y ait la paix pour tous, qu'il y ait pour tous du travail, de l'eau et de la terre. Que tout le monde sache que le corps, l'esprit et l'âme de chacun sont désormais libres de s'accomplir.
du travail, de l'eau, de la terre pour tous. Force est de constater aujourd'hui que cette promesse n'a pas été tenue. La pauvreté, les inégalités sont montées en flèche en Afrique du Sud selon un rapport de la Banque mondiale. Elles se sont particulièrement aggravées au début des années 2010. Est-ce qu'il faut y lire un échec de l'émancipation économique qui avait été promise par Mandela et à qui en attribuer les responsabilités? Est-ce que c'est justement le Mandela conciliateur qui n'a peut-être pas été assez radical dans la redistribution des terres et des richesses, ou bien est-ce que ce sont tout un tas de facteurs extérieurs ou par la suite ou de conjectures économiques, et peut-être les deux d'ailleurs, Marianne Séverin?
Je pense que c'est les deux, et justement vous avez mentionné la date les amis de 2000, et ça correspond bien au moment où Jacob Zuma arrive au pouvoir. Alors même si je n'ai pas envie de le charger, mais finalement tout ce qu'avait essayé de construire Nelson Mandela et son prédécesseur, puisque on avait quand même noté qu'il y avait une nette amélioration de la situation socio-économique, notamment avec l'émergence d'une classe moyenne noire en Afrique du Sud sous la mandature de Thabo Mbeki, avec Jacob Zuma et sa pratique très particulière de la gouvernance et sa manie de confondre, de s'impliquer dans la corruption et de laisser des personnes étrangères finalement lui dicter ce qui les nominations, lui permettre d'étendre un vaste réseau de corruption qu'on appelle le step capture, ça vraiment affaiblit le pays, et ça a des répercussions actuelles durant cette pandémie, parce que finalement l'argent qui a été transféré dans les paradis fiscaux aurait pu servir pour le système de santé, aurait pu servir pour l'amélioration des écoles. Donc en fait, le problème même de l'ANC, ça a été Jacob Zuma et sa manière de gouverner, mais gouverner l'ANC basée sur qui lui est loyal. En fait, on s'est aperçu très rapidement que l'ANC, à partir des années 2010, s'est transformée en parti politique néocolonial. Ce qui arrive très souvent d'ailleurs lorsque vous avez des mouvements, des partis politiques qui ont mené une lutte anticoloniale. Une fois qu'elles arrivent aux affaires, au bout d'un moment, vous avez les élites qui auraient tendance finalement à être très égoïstes, à jouer de la corruption sans essayer de penser d'abord à la population de leur pays. Donc on est passé d'un système où lorsqu'on est ANC, on l'est parce que on a des idéaux, parce que on adhère à la politique du parti. On est dans une ANC qui se transformait en une espèce de machine de guerre où vous avez des fractions, vous avez des groupes rivaux et encore une fois de la corruption. C'est le gros problème de ce parti.
Je vais vous laisser réagir, Achille Mbembe, à cette idée que l'ANC serait devenu un parti néocolonial, qui serait quand même le comble pour ce parti. Et vous demandez aussi si Cyril Ramaphosa est jugé aujourd'hui peut-être trop timoré, pas assez combatif sur à la fois la lutte contre la corruption, mais aussi la lutte contre les inégalités structurelles qui demeurent entre noirs et blancs en Afrique du Sud.
Oui, enfin, on ne va quand même pas mettre tout sur la tête d'un seul. Évidemment, Zuma a été un piètre leader, mais c'est pas une affaire de personne. C'est un système. Et d'ailleurs, les forces qui ont soutenu Zuma, elles existent toujours au sein de l'ANC. Elles existent à un point tel que l'ANC est presque divisée en son milieu. La majorité dont dispose Ramaphosa au sein du NEC, the National Executive Council, elle est infime, elle est très fragile. Donc c'est une affaire d'un système qui se met en place, un système qui se met en place que décrivent des gens comme Fanon au lendemain de la décolonisation dans le reste du continent, où les vieux mouvements de libération, disons, se convertissent et se transforment en machines, en appareils de capture, non seulement du pouvoir, mais aussi de ce qui vient avec. À cela s'ajoute le fait que l'Afrique du Sud obtient sa libération du joug raciste à un moment où le néolibéralisme triomphe à peu près partout dans le monde. C'est-à-dire que les conditions objectives de mise en place de régimes, de politiques économiques favorables à une redistribution des richesses, ces conditions n'existent tout simplement pas. Et c'est des conditions qui sont, dont en tout cas une grosse partie, n'est absolument pas sous le contrôle de l'ANC ou de tout autre gouvernement, qu'il s'agisse des gouvernements africains ou des gouvernements des vieux pays industrialisés.
Vous voulez dire que la population se leurre quelque part dans les attentes qu'elle peut avoir envers ses dirigeants sur le fait de corriger, d'améliorer les inégalités et la répartition des richesses ?
Oui, les possibilités de correction que vous évoquez, elles sont très infimes par rapport, par exemple, à ce qu'elles étaient dans les années 60, à l'époque où les politiques keynésiennes de redistribution étaient admises. Aujourd'hui, c'est tout à fait très difficile. Les contraintes sont nettement plus difficiles qu'avant. Évidemment, la corruption, la prédation, tout cela, la mauvaise gouvernance ne facilite pas, disons, cette espèce de saut auquel beaucoup de Sud-Africains aspirent. Ceci dit, l'Afrique du Sud, depuis sa libération du joug de l'apartheid, est, à mon avis, un des derniers laboratoires où s'expérimente, par exemple, la mise en place d'une sorte d'État-providence. Lorsqu'on pense aux millions de rands qui sont dépensés chaque année pour les services sociaux.
Oui, Marianne Séverin, dans vos travaux, vous rappelez vous aussi que l'un des héritages de Mandela était justement d'avoir mis en place, alors non seulement des institutions démocratiques qui sont encore solides aujourd'hui en Afrique du Sud, mais aussi une politique de justice sociale et un véritable État-providence. Est-ce que c'est un héritage aujourd'hui qui a été un peu abandonné, Marianne Séverin?
Je n'ai pas l'impression que c'est un héritage qui a été abandonné. C'est un héritage qui est face à certaines contraintes et des contraintes économiques et financières, puisque lorsqu'on parle d'État-providence, cet État-providence doit être financé quelque part. Donc, j'ai oublié de dire qu'il y a eu la crise de 2008 qui est passée dans les parages et qui n'a pas finalement rendu service à l'Afrique du Sud. Donc,
c'est quand même la première puissance industrielle du continent. L'Afrique du Sud est quand même un État qui a des ressources. Et donc, de la richesse à redistribuer.
Oui, mais elle est mal redistribuée. C'est ça le problème. Et je trouve qu'elle n'est pas assez inclusive. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans une telle situation. Mais l'État, oui, Achille Mbembe a tout à fait raison en disant que en fait l'Afrique du Sud est le dernier laboratoire en Afrique qui concerne cet État providence, et on n'a peut-être pas le choix, puisque quand vous avez des personnes qui vivent dans la pauvreté, faut quand même essayer de les protéger, leur donner un minimum de revenus. Mais malheureusement, je me demande si le gouvernement va continuer à pouvoir financer cet État-providence et où il va trouver cet argent. Je lisais un article tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, article assez édifiant. En fait, il y a une coupe budgétaire pour la santé en pleine pandémie. Et lorsqu'on a interrogé le ministre de la Santé, il a dit, mais en fait, le gouvernement doit faire les choix. Et le choix qui a été fait, c'est plutôt d'essayer de sauver la compagnie aérienne sud-africaine et de couper un peu dans le budget de la santé. Donc, on voit aussi qu'il y a une incohérence au sein même du gouvernement. Pourquoi privilégier une compagnie aérienne qui est endettée depuis très longtemps au détriment du ministère de la Santé? Il y a un manque de réformes aussi dans ce pays. Il faut absolument des réformes structurelles afin finalement qu'on ait une meilleure redistribution, que des jeunes soient formés et qu'ils puissent trouver des emplois qualifiés qui leur permettent de vivre décemment.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
On est avec vous, Achille Mbembe et Marianne Séverin, pour parler de la mémoire et de l'héritage de Nelson Mandela. Et je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à un épisode peut-être moins connu de la vie de Mandela, son rôle de négociateur de paix au Burundi. On est en 1999. Mandela, après avoir décidé de repousser sa retraite de la vie politique, accepte une mission de médiation dans le conflit au Burundi, déchiré depuis 7 années par une guerre civile entre Hutu et Tutsi. Son engagement a grandement contribué à la signature des accords de paix d'Arusha en août 2000. Alors, quelle a été la méthode Mandela à l'époque et comment voit-on son action aujourd'hui, alors que ces accords ont été depuis remis en cause et que la paix reste très fragile au Burundi? Pour répondre à ces questions, on accueille un nouvel invité. Bonjour Nestor Bidadanouré.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, écrivain et journaliste, spécialiste de la résolution des conflits. Vous êtes l'auteur également de « N'éteignez pas la lumière » aux éditions Naïves en 2014. C'était un livre de réflexion sur la pensée de Nelson Mandela. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler 1999, Mandela est déjà une icône en Afrique et dans le monde entier. Son engagement pour la paix est internationalement reconnu. Comment est-il perçu, comment est-il accueilli au Burundi?
Il est extrêmement reconnu internationalement, mais c'est aussi une icône au Burundi. Et donc, c'est une très bonne nouvelle quand il accepte d'être médiateur de la crise burundaise.
Et quelle a été la méthode, quels ont été les principes de Mandela dans cette action de médiation? Certains disaient en tout cas à l'époque que ces accords de paix, Mandela les avait un peu fait adopter au forceps d'une certaine manière, qu'il avait un petit peu imposé la paix aux différentes parties à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment les choses se sont passées et quelle a été la méthode Mandela pour ces accords de paix?
Oui, disons que sa stratégie est très simple. En fait, ce qu'il a essayé de faire, c'était d'abord convaincre, c'est-à-dire qu'il se retrouve face à deux blocs. Un bloc qui est constitué par des partis majoritairement Hutu et un autre bloc qui est composé des partis majoritairement Tutsi. Et le discours de différents groupes, c'est de dire, les groupes Hutu disent qu'ils ont été victimes depuis l'indépendance d'une minorité, et la minorité Tutsi. La minorité Tutsi dit que depuis l'indépendance, elle est aussi victime des tentatives d'extermination de la majorité Hutu. Donc on est dans une espèce de blocage. Et donc, après de longs mois de négociations et le refus d'un côté comme de l'autre de faire des concessions, Mandela a une méthode, il s'est mobilisé bien sûr, et aussi bien les acteurs internationaux, mais aussi mobiliser les pays de l'Afrique de l'Est et l'Union africaine, l'ONU. Mais à la signature de l'accord, le 28 novembre 2000, là, c'est presque la communauté internationale qui est présente. Il y a tous les représentants des États de l'Afrique de l'Est, beaucoup de présidents africains. Il y a le président des États-Unis, Clinton. En fait, c'est la mobilisation pratiquement de l'humanité. Donc là, il y a une pression très importante chez les athées burundais qui acceptent de signer ces accords. C'est difficile de dire non à ce moment.
Est-ce que cette pression internationale suffit? J'ai pu lire également que Mandela, et c'était l'un de ses principes fondateurs, avait énormément insisté pour réunir absolument tout le monde à la table des négociations. Donc, c'est-à-dire pas seulement les pays voisins ou les institutions onusiennes, mais aussi tous les groupes rebelles, quels qu'ils soient. Et est-ce que c'est ça aussi qui a permis la signature d'accords en 2000, les accords d'Arusha?
Oui, disons que les groupes rebelles qui menaient la lutte armée sont plutôt restés en dehors. Mais l'accord d'Arusha, justement, qui stipulait le fait qu'il fallait être inclusif, a permis la signature des accords de paix, y compris avec ces groupes rebelles plus tard. Donc, c'est ça. Mais le plus important, c'est effectivement que dans ces négociations étaient inclusives. Il y avait toute l'opposition burundaise, en tout cas tous les partis politiques burundais. Et effectivement, le cadre, y compris pour la négociation avec les groupes armés, était bien tracé. C'est ça qui a permis justement d'avoir la paix pendant assez longtemps. De 2000 en tout cas à 2015, le Burundi était, on peut le dire, en paix, jusqu'à ce que justement ces accords soient remis en cause par le pouvoir du CNDD-FDD actuel.
Oui, c'est un élément important. Ces accords d'Arusha, ces accords de paix, ont été remis en cause depuis, notamment par le président Pierre Nkurunziza, décédé depuis, qui a aussi mis en place une nouvelle constitution qui revenait, elle aussi, sur les accords d'Arusha. Alors, est-ce que on peut se demander si, à l'époque, ces accords n'étaient peut-être pas allés jusqu'au bout du problème et n'avaient pas complètement réglé le fond du problème et des divisions communautaires entre Tutsi et Hutu au Burundi, et que est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de Mandela en tant que médiateur à l'époque dans le fait que ces accords n'aient pas tenu?
En réalité, l'accord d'Arusha est un accord très très important parce qu'il a permis justement d'arrêter la guerre, même de négocier avec les groupes rebelles. Donc la paix comprise comme l'absence de la guerre a été gagnée. Et donc disons que le problème, ce n'est plus Mandela, là, c'est plutôt la responsabilité maintenant de tout ce qui était, on va dire, les parrains de cet accord, qui étaient supposés faire un suivi et faire en sorte que, justement, il ne soit pas possible que ces accords soient remis en cause. Et on peut parler notamment de la communauté de l'Afrique de l'Est, de l'Union africaine et de l'ONU. Et on peut même aujourd'hui s'interroger sur le rôle de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie dans ce qui se passe, puisque, par exemple, la Tanzanie, vous savez que Mandela a remplacé le président Nyerere, que c'est lui, le président tanzanien, qui avait commencé ses négociations en 1988, et qu'il a été remplacé par Mandela en 1999. Mais aujourd'hui, face à la crise actuelle, une crise terrible, parce que je pense que ça vaut la peine de rappeler, qu'on a quand même 5% de la population qui est réfugiée dans les pays voisins, qu'on a de 2015, depuis la crise, à aujourd'hui, plus de 2500 opposants qui ont été assassinés, qu'on a plus de 8000 prisonniers politiques, donc une situation de crise humanitaire catastrophique, mais malgré tout, il y a une absence totale, notamment de l'Afrique du Sud, pour ne puisse que rappeler le fait que ces accords ne doivent pas être violés. Il y a l'absence, bien sûr, de la communauté de l'Afrique de l'Est, et la Tanzanie est plutôt portée à soutenir son pouvoir. Voilà. Il y a des régressions post-Mandela, mais en fait, nous, on a plutôt l'impression que Mandela avait fait son travail.
Je reviens à nos invités en plateau, Achille Mbembe. Quel regard vous portez, vous, sur cette mission de médiation qui avait été assumée par Mandela dans les années 2000 au Burundi?
Mais elle n'était pas la seule. Il est intervenu également au Congo à l'époque de Mobutu. On se souvient du fait que il a précisément présidé la dernière rencontre entre Mobutu et ses ennemis. Il est intervenu également au Nigeria à l'époque de Sani Abacha, lorsque ce dernier a fait pendre l'écrivain Ken Saro-Wiwa, et que Mandela a essayé donc de mobiliser l'opinion internationale et les autres États, dans le cadre du Commonwealth, pour sanctionner, disons, cet acte. Ici et là, ça aboutit à des résultats, je qualifierais, de mixtes. Mandela, comme d'ailleurs l'Afrique du Sud, pensait que le modèle de résolution des conflits expérimenté en Afrique du Sud entre l'ANC et la minorité blanche pouvait être universel et que, au fond, il suffisait de l'appliquer ici et là, y compris à des contextes historiquement différents et sociologiquement différents pour que ça marche. Il y avait donc dans cette démarche une dose à la fois d'idéalisme, mais aussi des limites tout à fait évidentes, dans la mesure où l'Afrique du Sud n'est pas représentative, disons, des situations conflictuelles partout dans le reste du continent.
Et puis peut-être une ambition panafricaine qui fera partie de cet héritage de Mandela sur le continent. Eh bien, merci beaucoup. Merci Nestor Bidadanouré. Je rappelle d'avoir été avec nous pour ce focus sur la mission de Mandela au Burundi. Je rappelle votre ouvrage « N'éteignez pas la lumière » aux éditions Naïve en 2014. Et puis, merci infiniment à vous, Achille Membe et Marianne Séverin, les références de vos ouvrages également sur notre site. On se quitte avec cette chanson « Jérusalema » composée, écrite en Zoulou par la chanteuse Nomcebo Zikode, produite par le DJ sud-africain Master Keji. C'était la chanson du confinement qui a eu un énorme succès au printemps dernier en Afrique du Sud.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
La concentration de l'industrie du numérique et des mastodontes seuls sur leurs créneaux comme Google, Amazon ou Netflix pose un sérieux problème non seulement économique mais aussi politique.
Oui, économique parce que Google et Facebook dominent à présent le marché publicitaire au détriment des autres médias qui sont, eux, d'authentiques producteurs de contenu. Et politique parce que de plus en plus, ce sont les opinions de ces messieurs de la Silicon Valley qui décident de ce qu'il est juste et bon pour nous de voir ou pas. Ces grandes compagnies exercent de facto le rôle de contrôleurs de contenu, en sélectionnant notamment l'ordre dans lequel leurs messages nous sont présentés. Or, en démocratie, c'est au législateur qu'il appartient d'organiser la défense des libertés et d'y apporter, le cas échéant, certaines limites, et certainement pas à des compagnies privées. La juriste finlandaise Anu Bradford faisait récemment observer que, tandis que les Américains se débattent avec la question économique, les plateformes sont-elles ou non des monopoles et faut-il leur appliquer la législation antitrust américaine, les Européens, eux, se sont attaqués justement au problème des contenus. Les régulations européennes déterminent souvent la manière dont les grandes compagnies tech recueillent, traitent, conservent et monétisent les données personnelles, écrit-elle. Facebook, Google et Microsoft ont adopté ainsi toutes les trois la politique de protection globale de la vie privée décidée par l'Union européenne, notre règlement général sur la protection des données. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle l'applique également hors d'Europe. Anu Bradford propose de nommer FE Bruxelles le mécanisme par lequel des règles décidées par les autorités européennes finissent par s'appliquer également hors d'Europe. Facebook a 3 millions d'utilisateurs en Europe et y réalise le quart de ses profits. En ce qui concerne les moteurs de recherche, les Européens utilisent Google dans 90% des cas. Le marché européen est donc pour eux déterminant. Or, l'Union européenne a des moyens de faire plier les grandes compagnies du net. Entre 2017 et 2019, la Commission européenne a imposé 10 milliards d'euros d'amende à Google pour pratiques non concurrentielles. Entre le techno-libertarianisme américain et l'autoritarisme numérique chinois, écrit Anne Bradford, l'Europe est en train de prendre conscience de sa capacité à imposer son propre modèle de régulation.
Et pour en revenir aux États-Unis, la patrie des géants du numérique, où en est la réflexion ? Est-ce que les lois antitrust peuvent s'appliquer ?
L'économiste britannique Diane Coyle en doute. Certes, Google domine totalement le marché de la recherche, Facebook celui des médias sociaux et Amazon celui du commerce en ligne. Mais c'est la loi de l'économie numérique, celle des effets de réseau. Plus une plateforme a d'utilisateurs, plus ses usagers en bénéficient, davantage de data améliore le service rendu, ce qui amène davantage d'utilisateurs, ce qui génère plus encore de data. C'est pourquoi les règles de libre concurrence peuvent difficilement s'appliquer dans le secteur de l'économie numérique. Et Diane Coyle le résume ainsi, une plateforme numérique est soit énorme, soit morte. Alors l'idée à la mode en ce moment aux États-Unis, selon laquelle on devrait trouver un moyen de restituer aux utilisateurs les data collectées sur eux, est très peu maniable en réalité. Lorsque vous circulez dans les smart cities, les villes intelligentes et connectées de demain, les informations recueillies sur vos déambulations vous appartiendront-elles ? Il faut convenir que les règles de l'économie classique ne s'appliquent pas à l'économie numérique. Dans la première, le standard de référence, ce sont les choix que les individus font indépendamment des autres. La paire de chaussures que j'achète, vous ne l'aurez pas. Mais il en va différemment dans l'économie numérique. Lorsque j'utilise un software, je n'en prive personne. Et mieux, vous bénéficierez peut-être de la recherche que je viens de faire sur Internet. Alors pour contourner ces difficultés, Fukuyama et les co-signataires de la tribune que j'évoquais hier, qui est donc publiée hier dans Foreign Affairs, ils ont imaginé une solution. Certes, il est inconcevable de demander au Congrès de démanteler Google, Facebook et Twitter, comme il l'a fait autrefois pour Standard Oil et AT&T. Vous ne pouvez pas retrouver certains de vos amis sur un Facebook 1 et puis d'autres sur un Facebook 3 qui serait son concurrent, et puis 2 et 4, pourquoi pas ? Alors la solution, selon Fukuyama toujours, ce serait de contraindre les géants du tech à l'introduction de middlewares. Ce sont des logiciels médiateurs, en bon français, qui permettraient aux utilisateurs de choisir la manière dont les informations qui leur sont présentées sont générées et filtrées. Cela redonnerait donc du pouvoir aux utilisateurs et cela permettrait à de nouveaux acteurs de venir concurrencer les géants du tech dans une des fonctions les plus menaçantes pour nos libertés, celles de gatekeepers éditoriaux. Les plateformes cesseraient de détenir le pouvoir de choisir à notre place ce qu'elles estiment que nous devons voir en toute opacité et pour leur plus grand bénéfice à elles.
Merci beaucoup Brice Couturier. Votre chronique à retrouver et à réécouter sur franceculture.fr.